Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Guten Tag, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, trois sujets au menu cette semaine. En entrée, un entretien sur l'état actuel des relations entre Berlin et Paris à l'occasion de la journée franco-allemande, c'était le 22, mercredi. En plat principal, un reportage qui nous emmènera à Munich où un photographe allemand a décidé de venir doublement en aide à de jeunes réfugiés. Et en dessert, on parlera d'un scandale qui touche l'ADAC, le club automobile le plus connu d'Allemagne. C'est Constance von Katze au micro, soyez les bienvenus.
Lichter aus Sportern, die Wirbel sind gefallen. Zweierpaar steht für zwei, die zusammen halten. Du Wort, du Long. Vier Augen sehen mehr, Wortspiel, Workflow, Workshop, bitte sehr. De, double, de. Passion et stratégie, mais pas de stratagème. Montée du suspense, rapace redoublé. Récitatif flambé, la renaissance des rappeurs, loin des clichés.
Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Le couple franco-allemand s'affiche de nouveau à la une des journaux. Ces derniers mois, il faut dire que la France et l'Allemagne étaient davantage préoccupés par leurs agendas politiques et électoraux intérieurs que par le renforcement de leurs relations. Mais maintenant que le gouvernement allemand est formé, le travail peut reprendre. Mi-janvier, le président français François Hollande a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a lancé trois initiatives franco-allemandes destinées à relancer l'Europe. Détail du programme avec Claire Demesmet, spécialiste des relations franco-allemandes à l'Institut allemand de politique étrangère, DGAP.
Les deux pays disposent d'une fenêtre de tir de près de 3 ans jusqu'aux prochaines grandes élections, à savoir la présidentielle en France et l'élection législative en Allemagne. C'est pour la relation entre les deux pays des circonstances très favorables. Alors pour revenir sur les propositions de François Hollande, il a cité trois domaines. Le premier, c'est la question de la fiscalité avec une harmonisation de la fiscalité des entreprises. Ça permet aussi d'avancer un petit peu plus vers le parachèvement du marché unique, tout simplement.
Deuxième volet annoncé par François Hollande de coopération renforcée, c'était sur le climat. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce côté-là ?
Alors là, il faut bien voir que tout ce qui concerne le climat et l'énergie, l'Allemagne a souhaité sortir du nucléaire. C'est quelque chose dont on ne peut pas discuter en franco-allemand. Il n'y aura aucun rapprochement sur cette question-là. En revanche, nous sommes, nous, Français et Allemands, face à une série de défis communs, à savoir développer les énergies renouvelables. Il s'agit de financer des recherches qui sont extrêmement coûteuses et la France et l'Allemagne peuvent en effet avoir un vrai rôle de moteur sur cette question.
Et il y a un troisième volet qui intéresse particulièrement nos auditeurs. Il s'agit de l'Europe de la défense et du renforcement de l'engagement allemand, notamment en Afrique. Là aussi, ça reste assez flou pour le moment.
Oui, la coopération franco-allemande dans ce domaine-là, c'est un petit peu un serpent de mer depuis des années. On n'avance pas, on a un dialogue de sourds puisque les Français demandent plus à l'Allemagne. L'Allemagne répond qu'elle s'engage, mais par du soutien à la formation des armées, des pays partenaires par exemple, et pas par l'envoi de troupes qui vont aller au combat. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre sur ce plan à un véritable tournant, mais il faut bien voir qu'on a tellement peu avancé ces dernières années sur ce sujet que même des petits pas seraient extrêmement encourageants.
C'était Claire Demesmet de l'Institut allemand de politique étrangère. J'ajoute que le franco-allemand se joue aussi et même surtout au niveau de la société civile dont l'action est peu liée aux fluctuations politiques. Et puis à ceux qui douteraient de l'importance de la langue française, on a appris que l'État régional de la Sarre, qui a une frontière commune à la fois avec la France et le Luxembourg, eh bien cet État veut faire du français sa deuxième langue officielle après l'allemand d'ici 2043. Vous êtes à l'écoute d'Allemagne Magazine et de la bande originale d'un film allemand célèbre, Cours, Lola Cours, sorti en 1998. Courir, c'est aussi la passion du photographe allemand Paul Huf, qui travaille par ailleurs au Centre pour réfugiés mineurs à Munich. À travers cette expérience, il a pu constater que les réfugiés faisaient face à de multiples difficultés qui entraînent parfois des conséquences psychologiques. En marge des séminaires de photos qu'il donne à ses protégés, il a donc décidé de leur faire découvrir sa passion, la course à pied. Et il a pour cela eu une drôle d'idée, comme Isabelle Hartmann a pu le constater.
Courir ? 8, 9, 10 km avec des chaussures aux semelles trouées et un pull trop grand, cela ne pose aucun problème au jeune Somalien Khalid.
I am the best in the world.
Khalid a 14 ans et habite dans un centre pour mineurs demandeurs d'asile dans la banlieue de Munich. Aujourd'hui est un jour un peu particulier car Paul Hoof, un photographe qui vient régulièrement de Berlin pour donner aux jeunes des cours de photo, a invité les garçons à se mesurer à lui au cours d'une compétition d'endurance.
Je peux courir plus de 30 km. Celui qui arrive à en faire autant gagne un bon cadeau de 50 euros dans un magasin de vêtements. Ici, les garçons aiment bien les fringues.
Mais le véritable but de cette course est tout autre, explique Paul Hoof. Il veut en fait encourager ses protégés à courir régulièrement.
Beaucoup sont insomniaques. On les accède panique. J'ai parlé avec de nombreux psychologues. Et j'ai pu le constater moi-même, quand on court, surtout sur de longues distances, on pense aux choses de manière différente. On les digère mieux, on dort mieux, on combat ses angoisses, on trouve des solutions à ses problèmes. C'est pour cela que j'ai organisé cette compétition. Et à chaque fois que je viendrai, il y aura cette course.
Son espoir, que les jeunes s'entraînent en son absence pour gagner la prochaine course. Et qu'ils soient de plus en plus nombreux à participer. Aujourd'hui, 6 jeunes hommes sont sur la ligne de départ. À côté du Somalien Khalid, il y a Samuel de Sierra Leone, Indrit d'Albanie et Jafari, Morteza et Hadi, tous 3 d'Afghanistan.
Ok,
bonne chance, que le meilleur gagne. Et top.
Le tour des terrains de sport, situé derrière le centre de réfugiés, fait environ 1 km. Dès la fin du premier tour, Jafari s'arrête. Il a trop mal au dos pour continuer, dit-il déçu.
Je fais du sport tous les jours, c'est bizarre. Je suis venu à pied d'Afghanistan en Allemagne, c'est pour ça que j'ai mal au dos.
D'autres sont également marqués par la guerre ou la fuite de leur pays. Mahdi a 15 ans et vient de la ville de Bamiyan en Afghanistan. Lui photographie les coureurs, il ne peut pas les suivre. L'explosion d'une mine antipersonnelle lui a arraché les deux jambes. Avec chaque kilomètre, le nombre de coureurs diminue. Morteza s'arrête bientôt hors d'haleine.
On a les premiers signes de fatigue.
Hadi estime que c'est la faute de ses mauvaises chaussures s'il stoppe sa course.
6 km, boys.
Puis ce sont Indrit d'Albanie et Khalid de Somalie qui abandonnent. Après 10 km de course, le gagnant rayonne.
Ladies and gentlemen, from Sierra Leone, Africa, the number one.
Tout droit venu de Sierra Leone, applaudissez Samuel.
Samuel empoche son bon cadeau de 50 euros. Au bout de 50 minutes de course, l'adolescent de 14 ans ne transpire même pas. Son secret ?
J'aime courir, je suis footballeur. Je ne pense pas être meilleur que Paul, mais je compte bien me mesurer à lui à chaque fois qu'il organise une course.
Paul Hoof sourit. Pour une première, le photographe coureur estime que sa compétition a bien marché. Elle était le sujet de conversation numéro 1 durant toute la semaine dans le centre de réfugiés et une bonne quinzaine de jeunes étaient aujourd'hui là pour regarder ou participer. Mais Paul Hoof a déjà un nouvel objectif en tête.
Maintenant, on va travailler l'endurance. J'aimerais que tous les jeunes courent au moins les 10 premiers kilomètres avant que l'écrémage ne commence.
D'ici là, il faut qu'ils s'entraînent, dit Paul Hoof à ses coureurs. Eux acquiescent avec vigueur. 3 mois après cette première compétition, le travail sportif de Paul Hoof semble porter ses fruits. De plus en plus de jeunes participent à sa compétition mensuelle, si bien que les services de la jeunesse de Munich se demandent s'il serait possible d'étendre le projet à d'autres centres de réfugiés.
Et en attendant, c'est Isabelle Hartmann, notre correspondante à Munich, qui s'est improvisée coureuse de fond pour suivre ces jeunes réfugiés. Son reportage est à retrouver d'ici la fin de la semaine sur le site www.dw.de/français dans la rubrique podcast. Et nous voilà déjà arrivés au dessert. Notre stagiaire Mathilde Benignus nous a rejoint en studio. Bonjour Mathilde.
Bonjour Constance.
Mathilde, vous allez nous parler d'un scandale qui a ébranlé cette semaine le puissant club automobile ADAC. La DAC, c'est un véritable symbole ici, du moins jusqu'à présent, car le club a admis lundi avoir manipulé les chiffres du vote de la voiture préférée des Allemands. Dites-nous tout et dites-nous d'abord ce qu'est la DAC. Oui, alors l'ADAC, ce sont les initiales de l'Association des automobilistes allemands. Elle existe depuis plus de 100 ans et aujourd'hui, c'est un lobby vraiment ancré dans la population avec 19 millions de membres. En fait, c'est la première association d'automobilistes en Allemagne. Mais les actions du club vont plus loin que l'aide aux automobilistes en panne. C'est devenu un véritable groupe de pression.
Alors sur quoi fait-il pression justement et que défend l'ADAC pour les automobilistes allemands ?
Eh bien comme l'ADAC est le lobby des automobilistes, de fait c'est souvent le lobby de l'industrie automobile allemande. L'organisation est très présente dans les discussions politiques par exemple en ce moment sur l'introduction d'un péage sur les autoroutes. C'est aussi l'ADAC qui défend la liberté de l'automobiliste de choisir à quelle vitesse il veut rouler. Certains comme le Parti des Verts dénoncent depuis longtemps les revers de cette liberté pour la sécurité ou l'environnement. Mais jusque-là, aucun politique au pouvoir n'ose vraiment s'attaquer publiquement à ce précepte bien ancré dans la mentalité allemande.
Alors justement Mathilde, vous pouvez peut-être encore nous dire pourquoi la voiture a une telle place dans cette mentalité allemande ?
Eh bien, de nombreux Allemands s'identifient très fortement à la voiture. C'est un symbole de statut social, bien sûr, mais aussi de respectabilité. Et en plus de ça, c'est le produit « made in Germany » par excellence. C'est celui qui s'exporte le mieux, même en temps de crise. Une fois par an, les membres de l'ADAC élisent leur voiture préférée. Et qui sort gagnant, à votre avis ? Une marque allemande, bien sûr. Mais cette année, le scandale est venu d'un zéro de trop. Le chef de la communication du club a reconnu avoir grossi les chiffres. Les 3400 votants sont devenus 34 000. À l'avenir, le club risque d'avoir plus de mal de s'appuyer sur ses valeurs, fiabilité et transparence. Sans compter que la place de l'automobile, en général, est remise en question par la transition écologique qu'entreprend actuellement l'Allemagne.
Une affaire à suivre donc Mathilde, merci pour toutes ces informations. Et en attendant de voir comment le marché automobile va évoluer dans les prochaines années, je vous propose de mesurer une fois encore le poids de l'ADAC avec une chanson qui lui est dédiée. N'oubliez pas, français@dw.de pour nous écrire et pour nous soutenir en ces temps quelque peu troublés. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tschüss.
Dir eine Beule wieder hin. Sie wechseln dir einen Reifen, wenn er platt ist. Die gelben Engel vom ADAC. Sie wechseln dir den Zündverteiler Finger und legen sich unter deinen PKW. Sie machen aus deinem Wrack erstmal ein Auto, das läuft. Die gelben Engel.